autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour une émission martienne aujourd'hui, en quête de traces de vie passée ou présente sur la planète rouge. Mars a-t-elle abrité la vie et sous quelle forme ? Serions-nous tous d'origine martienne ou s'agit-il d'autres formes de vie que la nôtre ? Et qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Comment et où les chercher ? Autant de questions sidérales et sidérantes soulevées par notre invité, l'exobiologiste André Braque, du CNES, membre d'honneur de l'Institut d'astrobiologie de la NASA, qui nous fait partager une vie de recherche martienne autour de la question « Pourquoi et comment chercher de la vie sur Mars ?» Bienvenue. Bonjour André Braque.
Bonjour.
Merci d'être venu dans notre studio sur RFI pour partager vos recherches, vos hypothèses et vos interrogations vertigineuses sur Mars. Mars, notre passé et notre avenir, c'est le titre de votre essai qui vient de paraître aux éditions Humaine Science et ce n'est pas de la science-fiction, mais un état des lieux de la recherche en exobiologie sur la planète Mars, recherche à laquelle vous avez consacré votre vie de chercheur, directeur de recherche honoraire au Centre de biologie moléculaire du CNRS à Orléans, membre du groupe Exobiologie du CNES et membre honoraire de l'Institut d'astrobiologie de la NASA. Vous avez participé à plusieurs missions scientifiques, André Braque, comme Mars Express et Beagle 2. En attendant Mars 2020, André Braque, la planète rouge n'alimente pas que les fantasmes des auteurs de science-fiction. C'est aujourd'hui un vrai laboratoire de recherche, à la fois sur les origines de la vie, sur d'autres formes de vie possibles, passées, présentes ou à venir. Pourquoi Mars est-elle, pour reprendre le titre de votre livre, à la fois notre passé et notre avenir ?
Parce que Mars a été habitable plus tôt que la Terre. Mars est une planète plus petite que la Terre. Et son rayon est la moitié du rayon terrestre. Sa masse est le dixième de la masse terrestre. Donc la planète s'est refroidie plus tôt. Elle a connu des océans plus tôt que la Terre. Et donc la vie a pu y paraître plus tôt que sur la Terre. Et donc l'idée que la vie soit apparue sur Mars et soit partie de Mars dans une météorite martienne et atterrir sur la Terre avant, donc déclencher la vie terrestre dans les océans terrestres. C'est une hypothèse, donc c'est la raison pour laquelle Mars nous intéresse beaucoup, parce que c'est l'endroit en dehors de la Terre où la vie a plus de chances d'apparaître.
Et si l'on suit cette hypothèse qu'on appelle de panspermie, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire une question que vous posez dans ce livre, André Braque, sommes-nous tous martiens ?
Oui, on pourrait tous dépendre d'une bactérie martienne née sur Mars et apportée sur la Terre à bord d'une météorite, puisqu'on a maintenant plus d'une centaine de météorites qui viennent de Mars. Pour l'instant, rassurez-vous, si vous craignez d'être martienne à l'origine, nous n'avons pas encore trouvé de traces de vie martienne dans les météorites martiennes.
Bon, ça reste à l'état d'hypothèse. En tout cas, sur Mars, il y a quoi ? Il y a les éléments de base pour la vie ? C'est ça, l'eau, le carbone ?
Les conditions qui nous paraissent les plus favorables pour l'émergence de la vie, c'est effectivement l'eau à l'état liquide et la chimie du carbone. Alors sur Mars, on sait maintenant avec certitude qu'il y a eu des océans à la surface de Mars. Reste à montrer que Mars a hérité aussi de quantités importantes de matière carbonée. Alors, notre hypothèse est confortée par le fait que Mars, ayant des océans dans le passé, avait donc forcément une atmosphère pour maintenir l'océan et donc un frein pour les micrométéorites qui, sur Terre, ont probablement apporté une grande partie de la matière carbonée qui a participé au démarrage de la vie sur Terre. Donc, les conditions qui ont vu les balbutiements de la vie sur Terre existaient sur Mars. Donc, l'idée que l'apparition de la vie soit possible sur Mars est ancrée maintenant bien fermement dans l'esprit des chercheurs.
Sauf qu'aujourd'hui, Mars est inhabitable et stérile.
Pour l'instant, aujourd'hui, la surface de Mars n'est pas habitable. Parce que Mars n'a plus d'eau à sa surface. Mars est brûlé en permanence par le Soleil. Mars, dans l'atmosphère, il n'y a pas d'oxygène. Donc, il n'y a pas de protection par la couche d'ozone. Et donc, la vie à la surface de Mars, aujourd'hui est impossible.
À la surface, hein, vous dites. Autour de la question pourquoi et comment chercher de la vie sur Mars ou sous la surface du sol de Mars, interrogation partagée sur YouTube par Florence Porcel, la community manager de l'univers, qui elle aussi, comme vous André Brac, mise sur Mars dans ses vidéos astronomiques.
Je sais que t'es pas martien, s'il y avait des êtres humanoïdes sur Mars, on le saurait depuis le temps. Bon, cela dit, les scientifiques ont longtemps cru que ça existait quand même, hein. On cherche à savoir si une forme de vie très simple, comme des bactéries par exemple, a pu se développer sur Mars. Curiosity, qui se trouve là-bas depuis 2012, a prouvé que Mars avait été habitable un jour. Et n'empêche, les selfies de Curiosity, c'est pas trop stylé quand même. En 2020, deux autres rovers devraient arriver sur Mars pour y chercher directement des traces de vie, sans doute mortes depuis très longtemps. Mais certains scientifiques n'excluent pas qu'ils puissent toujours en exister, dans le sous-sol par exemple. En tout cas, il n'est pas exclu que la réponse à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» arrive au cours du 21e siècle. Vous vous rendez compte ? Même s'il s'agit de fossiles de bactéries martiennes ou d'algues dans les océans d'Europe, une des lunes de Jupiter, ce sera sans doute la plus grande découverte de l'histoire des sciences.
Ah oui, ce sera certainement la plus grande découverte de l'histoire des sciences. Vous y croyez vous-même, André Brac, ou en tout cas, c'est votre hypothèse,
hein. Oui, c'est notre hypothèse de travail. Alors en fait, la découverte de la vie sur Mars serait le deuxième exemple de démarrage de la vie, à condition que la vie sur Mars, si on la trouve et si on arrive à la déchiffrer, ne soit pas trop proche de la vie terrestre.
Donc, Attendez, quand vous dites le deuxième exemple, c'est-à-dire qu'on aurait l'exemple, notre exemple, hein, oui, de la vie sur Terre, et il y en aurait un deuxième.
Pour l'instant, nous ne connaissons que la vie sur Terre. Donc, la question qui hante l'esprit humain est de savoir si nous sommes seuls ou si la vie peut être partagée ailleurs. Et la vie martienne, nous espérons, si on la découvre, qu'elle soit un petit peu différente de la vie terrestre pour définir une véritable deuxième genèse de la vie. À partir de deux, c'est le pluriel. Donc on pourra généraliser et considérer que chaque fois qu'on a les constituants nécessaires au démarrage de la vie, à savoir l'eau à l'état liquide et la chimie du carbone, il y a une probabilité pour que la vie apparaisse. Donc une petite tribu en Amazonie qui... d'une petite centaine d'habitants, ont réglé le problème de l'arithmétique. Pour eux, c'est 1, 2, après 2, c'est beaucoup. Donc pour nous, ça serait 1, 2...
Ça serait 1 sur la Terre, 2 sur Mars.
2 sur Mars, et à partir de 2, partout, potentiellement partout.
Potentiellement, il pourrait y avoir la vie. Hein. C'est une véritable science, hein, qui s'appelle alors au choix exobiologie, astrobiologie. Vous préférez exobiologiste, vous, André Brac, ou il y a un intérêt à reprendre l'étymologie de cette science en quête de vie ailleurs.
C'est une origine un peu politique. Dans les années 1980, Lederberg, un Américain, a lancé le mot exobiologie pour la recherche de vie extraterrestre à partir du développement des missions. Et c'était ambigu parce que exobiologie exclut la Terre et on a besoin de l'apparition de la vie sur Terre comme référence. Et donc, néanmoins, on a gardé exobiologie. Idéalement, il aurait fallu l'appeler cosmobiologie, la vie dans le cosmos, puisque la Terre appartient au cosmos.
Oui.
Mais en 1980, on est en pleine guerre froide. Donc, cosmos sonnait russe, puisqu'on les Russes parlent de cosmodrome, cosmonaute. Et donc, il était impensable d'appeler cette discipline cosmobiologie, et donc les Américains ont gardé exobiologie et les Européens également exobiologie. Jusque dans les années 90, après, les Américains ont lancé un nouveau programme, et quand ils lancent un programme, il faut lancer un nouveau mot. Donc ils ont lancé le mot astrobiologie, ce qui n'est pas mieux puisqu'il n'y a pas de vie dans les astres. Mais néanmoins, on a fini par suivre un peu la mode américaine, et maintenant, la plupart des Européens qui recherche de vie extraterrestre se considère comme astrobiologiste.
Alors, astrobiologiste ou exobiologiste ou cosmobiologiste, oui, c'est comme on veut. Mais sous quelle forme la vie a-t-elle existé, peut-être ailleurs dans le cosmos, notamment sur Mars, la même forme que la nôtre ou pas? Et surtout, comment et où la chercher? Première question de géographie martienne, soulevée par le planétologue Sylvain Boulet, qui était récemment notre invité.
André, Évidemment, on a, je pense que dès qu'on travaille sur Mars, on a tous envie de chercher et de trouver la vie. Moi, j'ai une petite idée où éventuellement aller la trouver. Je voulais savoir si toi, justement, tu avais un endroit spécial sur Mars où tu irais bien te poser et où tu serais, qui tu te dirais, tiens, là, j'ai une forte chance d'en trouver.
Et vous iriez où, Sylvain Boulet?
Ah, moi, j'irais dans un ancien pôle nord de Mars, parce que la planète Mars a basculé il y a 3,5 milliards d'années. Et donc, le pôle nord ancien, le pôle nord actuel, en fait, n'est pas le même que le pôle nord ancien. Et en fait, il se pourrait bien que sous quelques dizaines de mètres de profondeur, il y ait de la glace très ancienne. Et moi, j'irais bien voir là-bas.
Et vous, André Braque, où iriez-vous sur Mars pour chercher la vie, justement?
Je me souviens de Stanley Miller qui me disait souvent « André, never demand too much ». André, ne demande jamais trop. Et il faut être réaliste, je pense que si on trouvait, ne serait-ce qu'à la surface, des traces fossiles d'une vie microscopique, microbienne, par exemple des roches constituées par des colonies de microbes ou bien des roches qui auraient été grignotées par des microbes, on serait déjà très heureux.
Donc, ça serait des traces fossiles.
Ce sont des traces fossiles. Alors, si on est vraiment plus ambitieux, on va chercher dans le sous-sol, sous le pergélisol, où il y a probablement encore de l'eau à l'état liquide. Et peut-être là, à cet endroit, des microbes ou des micro-organismes encore vivants aujourd'hui. Alors, on a bien trouvé quelques traces de méthane dans l'atmosphère, mais c'est un débat parce qu'on ne sait pas encore si ce méthane provient d'éventuelles colonies de micro-organismes qui pratiquent comme les méthanogènes sur Terre. Sur Terre, on a trouvé des bactéries dans les sédiments, sous le fond des mers, qui vivent à 1000 mètres de profondeur dans les sédiments.
Et des bactéries totalement extrémophiles, enfin
Non, pas extrémophiles. Des bactéries qui utilisent l'hydrogène qui est présent dans ces sédiments et le carbone décarbonate, et qui produisent du méthane. Et ce méthane est un petit peu enrichi en carbone 12, en isotope stable du carbone, le carbone 12. Et donc, sur Terre, on sait que la vie existe profondément enfouie dans les sédiments, à 1000 mètres de profondeur. Alors, sur Mars, ce méthane, il n'est pas très abondant. Et pour l'instant, on ne peut pas encore déclarer que ce méthane pourrait être d'origine biologique. Mais c'est un endroit où il faudra aller. Alors, l'année
prochaine, il faudra aller là, dans ce ancien pôle nord de Mars, par exemple.
Il y a un instrument qui est sur l'orbiteur Mars Express de l'Agence spatiale européenne. Il y a un radar qui fouille le sol. Et il a trouvé une zone brillante et qui est certainement une nappe d'eau à l'état liquide sous le pergélisol, mais sous le pôle sud. Donc là où il y a de l'eau à l'état liquide, il y a peut-être des microbes qui s'épanouissent, qui se seraient réfugiés là lorsque la vie est devenue impossible à la surface de Mars. Mars a perdu son atmosphère, donc Mars a perdu son habitabilité, et donc ces micro-organismes se sont peut-être réfugiés sous le pergélisol pour survivre.
Oui, parce qu'aujourd'hui, à la surface de Mars, toute vie, toute forme de vie, même les plus extrêmes, est totalement impossible.
Absolument, absolument. Le sol est totalement sec, il n'y a plus d'eau à l'état liquide à la surface. Le sol est balayé en permanence par le vent solaire, par les UV solaires, puisqu'il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère ou très, 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 très peu d'oxygène dans la surface de l'atmosphère de Mars. Et donc, il n'y a pas d'ozone, il n'y a pas de couche protectrice d'ozone. Ensuite, il n'y a pas de champ magnétique permanent. Donc, il n'y a pas de bouclier magnétique, de magnétosphère, qui, sur Terre, dévie la radioactivité du Soleil vers les pôles. Donc, la vie, actuellement, à la surface de Mars, est impossible.
Est-ce que c'est aussi, quand vous dites, en titre de ce livre, hein, « Mars, notre passé, notre avenir », est-ce que c'est aussi possible que la Terre, un jour, devienne aussi inhabitable que Mars, suive sa sœur jumelle, finalement?
Alors, il y a des tentatives des études qui sont faites par les Américains en particulier pour rendre Mars habitable. C'est ce qu'on appelle le terraforming ou la terraformation. Alors, donc, il faut réintroduire un effet de serre, une atmosphère qui a disparu Actuellement, c'est 6 millibars, 6 millièmes de pression atmosphérique. Donc, il n'y a presque plus d'atmosphère. Donc, il faut rétablir une atmosphère avec des gaz à effet de serre pour faire remonter la température.
C'est-à-dire faire le contraire de ce qu'on craint tellement aujourd'hui sur Terre, évidemment.
Oui. Alors, la question se pose, pourquoi ? Alors, si, par exemple, Mars est habité par des micro-organismes qui habitent encore sous le pergélisol, sous le permafrost, a-t-on le droit de risquer de détruire cette vie de martienne? Et l'autre argument qui est souvent avancé, c'est un refuge pour la civilisation lorsque la Terre sera devenue invivable du fait de l'activité humaine.
Ça, vous n'y croyez pas trop, hein?
Alors là, je veux dire que si c'est le cas, c'est vraiment dramatique parce que, après avoir rendu la Terre inhabitable, si c'est pour rendre Mars inhabitable, ce n'est pas la peine. De toute façon, là, il vaut mieux, de loin, gérer la Terre intelligemment, de façon à pouvoir continuer à vivre sereinement à la surface de la Terre.
Et à pouvoir continuer à chercher de la vie ailleurs que sur Terre. Et sous quelle forme, justement? Autre vertigineuse question pour vous, André Braque, soulevée par l'éminent physicien Carlo Rovelli, inventeur de la théorie de la gravitation quantique à boucle. Carlo Rovelli qui vous interroge.
Alors, voilà ma question. S'il y a eu de la vie sur Mars dans le passé, est-ce que vous pensez que c'est plus probable que c'est de la vie comme on la connaît, avec le même chimie organique du carbone, etc., ou c'est, je sais pas, de la chimie différente ou de la complexité différente? Et s'il y a de la complexité différente, est-ce qu'il y a une façon de mesurer la complexité, de définir qu'est-ce qu'on veut dire par vie, si c'est pas comme la nôtre?
Immense et double question, j'ai envie de dire, du physicien Carlo Rovelli. Déjà, la vie sur Mars, qu'elle serait semblable à la nôtre ou est-ce qu'elle serait différente? Vous avez commencé à aborder cette question déjà, André Braque.
On nous reproche souvent de ne rechercher qu'une vie que l'on connaît, c'est-à-dire la vie qui soit basée sur l'eau à l'état liquide et la chimie du carbone. Alors, ce que nous avons montré au laboratoire, en particulier à Orléans, c'est que ce couple a des qualités exceptionnelles et c'est certainement le couple qui est le plus apte à démarrer la vie.
Donc, l'eau liquide et la chimie du carbone.
Alors ça, ce sont les ingrédients de base. Est-ce qu'à partir de ces personnages, le scénario va être le même? Ça, on n'en sait rien. Donc la grande difficulté, c'est de trouver des biomarqueurs qui permettent d'identifier une vie extraterrestre.
Alors, mais comment on fait? Parce qu'en fait, il faut définir qu'est-ce que c'est que la vie ou qu'est-ce que seraient les biomarqueurs d'autres formes de vie?
Alors la vie pour nous, chimistes, c'est la capacité à l'autoreproduction et à l'évolution. Tout système capable de s'auto-reproduire et d'évoluer, pour nous, est considéré comme vivant. Donc, de ce fait, la vie, le système vivant, va produire quelque chose qui est en surabondance par rapport au milieu naturel.
La vie, ça serait une surabondance. Il y aurait trop de certains éléments qui serviraient à la vie,
regardez le carbone. Il est à moins de 0,1% dans le manteau terrestre. Et la vie, la biomasse est basée sur la chimie du carbone, alors que le silicium est à 17 ou 18%, et ce n'est pas le silicium qui a été utilisé pour démarrer la vie. Donc un extraterrestre qui examinerait la Terre dirait, mais il ne manquera pas d'être surpris par la surabondance de la matière carbonée qui prolifère à la surface de la Terre. Donc, même si la vie a une autre forme que la chimie du carbone dans l'eau, elle doit nécessairement, puisqu'elle est capable d'autoreproduction et d'évolution, d'être surabondante par rapport à la structure, de la planète majoritaire.
Voilà. Donc vous cherchez des éléments chimiques en surabondance qui pourraient, accouplés à d'autres, faire une autre chimie de la vie. C'est un peu ça que vous cherchez.
Oui, mais en sachant quand même que notre priorité, c'est une vie qui ressemblerait à la nôtre. Au moins dans ces ingrédients de base, à savoir la chimie du carbone, les molécules organiques et l'eau comme milieu.
Et comment on cherche, André Braque? Comment est-ce qu'on cherche des traces de vie fossilisées ou toujours existantes, basées sur les formes de vie qu'on connaît, enfin la seule forme de vie qu'on connaisse terrestre, basée sur l'eau liquide et la chimie du carbone, ou sur d'autres? Comment est-ce qu'on...
Nous, dans le système solaire, on a la chance d'avoir des missions qui peuvent aller ausculter toutes les planètes du système et les lunes des planètes du système solaire. Donc, on va sur place, comme sur Mars, on se pose, on gratte le sol, on photographie, on analyse.
Enfin, eux, c'est souvent des robots, hein, quand même. Hein.
Oui, pour l'instant, enfin, comme j'ai dit, on pilote des robots.
Voilà.
Et alors, en dehors du système solaire, la question est encore plus difficile, puisqu'on ne peut pas, actuellement, les deux sondes américaines Voyager qui ont été lancées dans les années 70, en 76, il y en a, les deux viennent de quitter plus ou moins le bord du système solaire. Donc, pas question d'envoyer des missions, même sur la planète la plus proche d'une étoile extrasolaire qui est Proxima du Centaure. Et donc,
c'est vraiment trop loin.
Pour les exoplanètes, les nouvelles sont très bonnes. On a maintenant plus de 35 000, je crois, exoplanètes.
Découvertes.
Alors, beaucoup on voit essentiellement des grosses planètes qui gravitent autour d'étoiles. Et donc, les grosses planètes sont comme Jupiter et Saturne. Elles sont gazeuses, donc elles ne peuvent pas avoir d'océan à la surface. Donc, on les exclut. Il y a une cinquantaine de plus petites planètes, comme la Terre, un peu plus grosse que la Terre, 4 ou 5 fois plus grosse que la Terre, qui sont considérées comme habitables. Alors, on les voit parce qu'elles passent devant l'étoile. Et chaque fois qu'elles passent devant l'étoile, elles procurent une petite éclipse. Et on peut analyser la lumière de l'étoile qui traverse l'atmosphère de ces planètes lorsqu'elles passent devant.
Et là, on sait qu'il y a une exoplanète.
On a trouvé de la vapeur d'eau dans une ou deux de ces exoplanètes lorsqu'elles passent devant l'étoile. Et pour l'instant, on n'a pas d'autre indication que simplement la recherche. Et si on trouve dans ces atmosphères beaucoup d'oxygène, on pourra déduire qu'il y a certainement des systèmes vivants sur ces planètes qui pratiquent la photosynthèse avec libération d'oxygène. Sur Terre, tout l'oxygène que nous respirons a été produit par la vie. Donc,
par les végétaux, sans végétaux
Par les végétaux, oui.
Sans les végétaux, pas de vie, à la surface de la Terre. Ce qui veut dire aussi, André Braque, autour de la question pourquoi et comment chercher de la vie sur Mars, qu'on la cherche sur Mars parce que, à la fois, c'est la planète jumelle, entre guillemets, de la Terre, au destin similaire, mais aussi parce que c'est la plus proche.
Oui, absolument. Oui. On va chercher sur Mars parce qu'on sait que Mars avait des océans qui ont disparu il y a environ 3,8 milliards d'années. Donc, ayant des océans, Mars avait forcément une atmosphère le couvercle pour maintenir l'eau. Et donc, avec le couvercle et l'atmosphère, qui à l'époque était plus dense qu'aujourd'hui, c'était un frein pour les micrométéorites qui ont apporté probablement la matière carbonée qui a pu démarrer la vie sur Mars.
Autour de la question, y a-t-il encore de la vie sur Mars? On continue de s'interroger avec Seo George sur RFI, Life on Mars, reprise de la célèbre chanson de Bowie.
Quantas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão e nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos, se o futuro assim permitir. Não pretendo viver em vão, meu amor, não estamos sós, em um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá a sua língua. Então vem, que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem, vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Ah.
français ou George, reprend Bowie sur RFI. Life on Mars, autour de la question pourquoi et comment la chercher. Cette vie sur Mars, nous sommes en compagnie de l'exobiologiste André Braque, qui vient de publier Mars, notre passé, notre avenir. On a compris, André Braque, que notre passé, celui de la Terre et peut-être celui de la vie sur Terre, peut se lire sur et sous le sol de la planète Mars, sœur jumelle de la Terre. Si l'on y trouvait précisément des traces de vie, alors à votre avis, vous qui êtes un pionnier qui avait consacré votre vie de chercheur à cette quête de traces de vie sur Mars, est-ce que ce serait des traces fossilisées ou encore actives? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Dans un premier temps, en 2020, on va chercher essentiellement des traces fossiles à la surface. Donc une vie microbienne qui se serait développée à la surface et qui aurait soit construit des édifices comme les stromatolites, c'est-à-dire que ces colonies de bactéries sur Terre qui pratiquent la photosynthèse en précipitant du calcaire, et quand elles ne voient plus le soleil, elles migrent sur le dessus de la structure, et donc créent une sorte de millefeuille qu'on appelle des stromatolites. Et ça, c'est une bonne signature de l'existence de colonies microbiennes. Maintenant, il y a d'autres bactéries sur Terre qui creusent les pierres, les roches, et donc qui créent des cavités qui sont très particulières. Donc, on cherche aussi ce type de cavités. Donc, ça, c'est à la surface. On cherche des traces de vie fossilisée, mais microbienne. Si nous trouvions déjà un fossile de microbe sur Mars, nous serions extrêmement heureux.
Ouais,
nous n'espérons pas trouver de martiens, petits bonhommes verts avec des antennes sur la Terre. Non.
Ça, il faut l'oublier pour le moment. Alors, en tout cas, toujours au conditionnel, si des signes, des traces de vie existent sur Mars, ce serait évidemment la plus fascinante des découvertes scientifiques. Mais évidemment, ça poserait aussi tout de suite d'énormes questions sidérales, sidérantes, éthiques aussi, et essentielles à commencer par celle que vous pose tout de suite le géologue cher Amadou Bambanyang, géologue sénégalais qui travaille sur les impacts d'astéroïdes martiens ou pas. On l'écoute.
Oui, André, d'abord, je voulais lui demander si advienne qu'on y trouve des formes de vie sur Mars, serait-il possible qu'elles puissent se développer sur Terre?
Grande question là aussi, André Braque, est-ce que si on trouve des formes de vie fossilisées, on pourrait... Déjà, est-ce qu'il faudrait amener, retour d'échantillon, l'amener sur Terre? Comment? Enfin là, les questions sont vertigineuses.
Oui, pour l'instant, nous avons des météorites martiennes, mais il existe un très léger doute sur l'origine martienne, très léger, mais ce doute serait totalement levé si on avait ne serait-ce qu'un milligramme de roche, de vraies roches martiennes. Donc, tout l'intérêt d'un retour d'échantillon. Et sur Mars, bien évidemment, on ne peut pas emmener de gros instruments très lourds. Donc, ça serait intéressant, si on trouve par exemple des microfossiles, de les ramener sur Terre et de les étudier comme on sait le faire sur Terre à l'aide d'instruments très lourds. Alors, se pose tout de suite le problème de la protection planétaire.
Ben c'est ça. Est-ce qu'on ne va pas contaminer soit Mars, soit la Terre?
Si par extraordinaire, il y avait des traces de vie martienne sous forme dormante qui se réveillerait sur Terre, donc... Les premiers échantillons, un retour d'échantillon est prévu dans peut-être vers 2030, peut-être un peu plus tard. Et c'est un peu compliqué hein, parce qu'il faut déjà les mettre dans un ballon de basket, enfin la taille d'un ballon de basket, le mettre en orbite autour de Mars, ensuite envoyer 2 ans plus tard une mission qui est chargée de chasser ce ballon de basket, de le récupérer, de le ramener sur Terre. Et une fois ramené sur Terre, les échantillons seraient stockés dans un laboratoire en quarantaine d'un an.
Ah donc, il faut déjà arriver à les rapatrier, parce que c'est pas rien de rapatrier une masse, quelque chose, enfin des morceaux de pierre. Il faut arriver à les rapatrier et ensuite, il faut évidemment les mettre en quarantaine sur Terre.
Oui, il faut les mettre en quarantaine et s'il y a le moindre danger, on calcine tout. Et sinon, après un an, après la quarantaine, les échantillons seront distribués aux États-Unis, certainement en Europe aussi, puisqu'un accord a été signé entre l'Agence spatiale européenne et la NASA pour faire en commun ce retour d'échantillons. Donc, ça nous intéresse beaucoup. Il y a aussi, il faut rassurer le public, puisque, surtout avec les réseaux sociaux, on ne manquerait pas d'avoir
des alertes sur le danger de la contamination martienne.
Absolument. Donc il faut que il faut convaincre le public que les scientifiques pratiquent aussi l'écologie planétaire et qu'on est parfaitement conscient des dangers potentiels, mais extrêmement minimes, puisque les échantillons seront récupérés à la surface de Mars et donc où toute vie est impossible. À moins que certains microbes martiens auraient trouvé le moyen de se protéger de la sécheresse, des UV, etc., et sous forme dormante et pour être ramenés sur Terre. Bon, mais ça, c'est une hypothèse. On fera comme si, et en mettant les échantillons en quarantaine.
C'est ça, on fera comme si c'était véritablement très dangereux, on prendra toutes les précautions nécessaires, parce que de toute façon, ça ouvrirait des questions gigantesques, absolument, et des questions d'ordre éthique aussi, tout évidemment. Et est-ce qu'on a le droit, enfin, il faut faire attention aussi à ne pas contaminer le sol de Mars, j'imagine.
Oui, ça aussi, tout ce qui est envoyé sur Mars et sur toute planète qui est potentiellement habitable, et donc habitée, peut-être habitée, toutes les sondes sont stérilisées d'une manière très, très précise. Il y a une réglementation qui a été éditée par le COSPAR, qui est un comité d'éthique spatiale, et qui exige un degré de protection exemplaire pour tout ce qui est envoyé sur Mars.
Autour de la question de Mars, notre passé et notre avenir, pour reprendre le titre de votre essai, André Braque, vous nous entraînez vers des interrogations, on comprend bien, qui sont assez proches de la science-fiction, même si ça reste de la science. Est-ce que Mars pourrait être une terre d'asile, une terre de refuge? Vous avez déjà évoqué, vous y consacrez un chapitre. C'est une question en tout cas bien plus complexe qu'il n'y paraît et que vous soumet tout de suite le physicien camerounais Stéphane Kenmoé, qui est lui aussi un grand passeur de science, un auteur également, et qui fait passer sa science à la télévision camerounaise. On écoute Stéphane Kenmoé.
J'aimerais savoir ce qu'il pense de la terraformation de la planète Mars. Est-ce pour maintenant? Est-ce pour un futur très lointain ou un futur proche? Qu'est-ce qu'il pense d'Elon Musk, qui beaucoup le trouvent très optimiste, beaucoup le trouvent très enthousiaste? Qu'est-ce qu'il pense de son idée récente, l'idée selon laquelle il proposait de dynamiter les pôles de la planète Mars et libérer le gaz carbonique qui est enfoui sous le sol de Mars, en fait, dans le but de créer une sorte d'effet de serre comme les questions sur la Terre, ce qui conduirait à un réchauffement climatique et qui va libérer l'eau liquide sur la planète. L'eau qui est l'alpha de la vie, qui peut générer la vie. Qu'est-ce qu'il en pense? Et je pose cette question parce que dernièrement, le prix Nobel de physique Michel Mayor, le premier à découvrir une exoplanète qui gravite autour d'une étoile telle que notre Soleil, n'est pas du tout enthousiaste, il est même plutôt pessimiste. Il dit que les humains n'auront pas de plan B. Qu'est-ce qu'il en pense dans tous ces cafouillages? Qu'est-ce qu'il en pense?
Qu'est-ce que vous en pensez, André Braque, entre effectivement Elon Musk qui se voit déjà sur Mars, le prix Nobel Michel Mayor qui est lui plus pessimiste? Vous en êtes où? Vous en pensez quoi? La terraformation de Mars et de cette idée de Mars comme refuge pour nous les terriens?
J'en pense le plus grand mal.
Mmh, vous me rassurez.
Parce que s'il faut s'installer sur Mars parce que la Terre devient inhabitable, c'est dramatique et ça traduit bien l'esprit de conquête des Américains. Il y a, vis-à-vis de ce problème, il y a deux approches possibles. Il y a l'approche exploratoire, donc on va, et je suis absolument pour la démarche exploratoire. On analyse, on découvre. Et un peu comme l'archéologie urbaine, on ouvre, on regarde, on prend des photos et ensuite on referme. Et pour Mars, c'est pareil. Il faut absolument s'assurer d'apporter des preuves de la présence passée de vie sur Mars, éventuellement présente encore dans le sous-sol. Mais une fois que c'est fait, on est content d'avoir compris, d'avoir appris et on revient. Les Américains ont plutôt un esprit de conquête pour des raisons historiques. Hein. C'est un peuple de conquérants. Et quand on voit la difficulté qu'il y a à traverser l'Ouest américain, on comprend cet esprit de conquête. Mais encore faut-il être raisonnable et ne pas continuer à dégrader la Terre en pensant que nous avons un plan B tout près à notre porte. Donc pour l'instant, ce n'est pas réalisable et ce n'est pas souhaitable.
Qu'est-ce qui vous anime, vous, André Braque, dans cette quête? On l'a bien compris, c'est l'exploration, bien plus, c'est pas du tout la conquête. Hein.
Oui.
C'est l'exploration, c'est les pourquoi, c'est la connaissance, c'est le fait que, effectivement, si et quand, enfin, j'en sais rien, on découvrira des traces de vie fossiles ou existantes ailleurs dans l'univers, ça va bouleverser. Nos vies, évidemment. C'est ça qui vous pousse, c'est quoi qui vous motive ?
Tout à fait, tout à fait. J'étais adolescent quand le prof de physique est rentré en 1953. Le prof de physique entre dans la salle de classe en disant « Aujourd'hui est un jour important car un jeune chimiste américain a réussi à faire des acides aminés à partir d'un mélange de gaz dans un ballon. » Donc c'était Stanley Miller. Et pour l'adolescent que j'étais à l'époque, je me suis dit « Tiens, si on arrive à faire des briques, on doit pouvoir faire des murs, peut-être une maison, comprendre l'origine de la vie et essayer de voir si ce type de phénomène peut se produire ailleurs. » Donc c'est ce besoin de comprendre. Et de toute façon, Einstein l'a bien dit, « Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen. » Il est important de ne jamais cesser de questionner. Je pense que de tout temps, les humains, en levant les yeux au ciel, on se sont demandé si on était seul, si les humains étaient seuls dans ce vaste univers. Et Christian Deluve écrit à la fin d'un de ses livres, « J'ai connu le plaisir d'apprendre et la joie intense quelquefois de comprendre. » Donc comprendre, c'est vraiment... Homo sapiens, c'est curieux. Il a besoin de comprendre. Et c'est ce besoin de comprendre, cet impérieux besoin de comprendre qui nous a mené depuis les balbutiements de nos ancêtres jusqu'à écrire « Peser des voies lactées » et écrire des cantates, comme disait Saint-Exupéry dans « Terre des hommes ».«
Peser des voies lactées », oui, vous citez Saint-Exupéry. Autour de la question de la vie sur Mars et en attendant mars 2020, tiens donc, on préfère tout de même rester sur Terre avec vous, André Braque, et continuer de s'interroger, de rêver aussi, d'imaginer d'autres mondes et d'autres futurs possibles à l'écoute d'un de vos morceaux favoris qui invite lui aussi à la méditation interplanétaire. La suite pour violoncelle numéro 5 de Bach, c'est votre choix musical et on en profite tout de suite sur RFI. Magnifique extrait de la suite numéro 5 pour violoncelle de Bach, interprété par Yo-Yo Ma. L'interprétation vous plaît, André Braque?
Ah oui, superbe.
Merci en tout cas pour ce choix. Juste avant, vous citiez Saint-Exupéry, écrire des cantates et peser des voies lactées. C'est presque de la musique des sphères qui inspire en tout cas l'exobiologiste que vous êtes autour de la question « Pourquoi et comment chercher ?» désespérément ou avec beaucoup d'espoir de la vie sur Mars? C'est une question qu'évidemment vous vous posez aussi, André Braque, dans cet essai « Notre Mars, notre passé et notre avenir, si on y parvient ».
Et je serai la reine de Mars.
Pas de vaisseau.
Oui, dès que j'aurai trouvé comment y aller.
C'est pas adapté.
Et comment survivre là-bas plus de 3 secondes sans combinaison spatiale? Oui, tu m'énerves, Emmett.
Florence Porcel, notre youtubeuse en reine de Mars. Une exploration martienne qui tient plus du rêve que de la réalité pour le moment, même si cette année sera celle de Mars 2020, même si les années qui viennent seront celles de Mars 2020, puisqu'on est encore bien loin d'un voyage habité vers Mars en quête d'autres formes de vie martiennes. À moins que, c'est l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet qui vous interroge justement, André Braque, sur notre futur martien.
Eh bien André, je sais évidemment que tu es passionné comme beaucoup par cette quête d'une vie possible ailleurs dans l'univers, à commencer par Mars peut-être, des bactéries fossiles. Je voulais savoir si tu as de l'espoir sur ces missions effectivement 2020 où on aura à la fois du côté européen, américain, toutes nations confondues, des véhicules automatisés, des astromobiles comme on les appelle, qui vont pouvoir explorer déjà des terrains martiens peut-être qui ont été plus propices que d'autres à avoir abrité dans le passé des bactéries. Est-ce que tu as espoir qu'on puisse réellement trouver quelque chose, des traces de vie fossile sur Mars, grâce à ces missions 2020.
Votre réponse, André Braque, qu'attendez-vous de ces missions Mars 2020 ?
Chimiste de formation, je suis convaincu que la chimie, c'est comme la pâtisserie. C'est-à-dire que si on répète avec précision, en prenant les mêmes ingrédients et la même recette, on doit normalement réussir la recette.
Donc, la recette de la vie,
La recette de la vie, absolument. Mmh. La recette a bien marché sur Terre, en supposant qu'elle a vraiment démarré sur Terre. Mars a les ingrédients de la recette de la vie telle qu'elle a démarré sur Terre. Donc, si la recette est relativement simple, ce que nous espérons, la recette a dû générer une vie peut-être un peu semblable à la vie terrestre. Maintenant, rien ne prouve que cette recette... Alors, les conditions de l'apparition de la vie sur Terre étaient difficiles. L'eau des océans était environ de 50 degrés. La Terre était bombardée en permanence par des météorites. Donc, à conditions difficiles, on pense que la recette, devait être relativement simple. Mais c'est une hypothèse. Et donc, c'est vraiment...
Sur Mars, il y avait aussi bombardement de météorites, mais il y aurait peut-être eu... ça aurait pu être, si la recette est simple, ça aurait pu être sur Mars plus aisé même que sur Terre
Plutôt que sur Terre.
C'est plutôt, ça. Hein.
Mais pas plus aisé. Donc, les météorites qui tombent sur Mars tombent à la même vitesse que celles qui tombent sur Terre. Donc la masse, l'attraction de Mars, la gravité martienne qui est un tiers de la gravité terrestre n'intervient pas dans la nature du choc. Mais Mars est habitable plus tôt, donc la vie a pu démarrer plus tôt, simplement. Et donc notre hypothèse de travail, c'est que c'est un endroit rêvé pour démarrer la vie, puisque Mars ressemblait vraiment dans toutes ces conditions. Par contre, si la recette est très difficile, Mars ne ressemble pas vraiment tout à fait à la Terre. Mars n'a pas de gros satellites, n'a pas de lune. Elle a des petits satellites, beaucoup plus petits que notre lune. Mars n'a pas de champ magnétique permanent, donc pas de magnétosphère qui la protège de la radioactivité du Soleil. Et Mars n'a pas non plus d'oxygène. De toute façon, quand la vie a démarré sur Terre, il n'y avait pas non plus d'oxygène. Donc, la grosse différence sur Mars à l'origine, c'est quand même l'absence d'un gros satellite. Sur Terre, la Lune provoque des marées, donc des cycles avec des endroits qui sont blayés en alternance par de l'eau, alors que Mars n'avait pas ce genre de grande marée. Et Mars n'était pas non plus protégé de la radioactivité du Soleil. Donc les conditions sont un peu différentes. Mais par contre, si la vie démarre sur Mars, et si on a la chance et le bonheur de trouver de la vie sur Mars, on pourra considérer que ces conditions ne sont pas requises pour que la vie démarre. Donc même quelque chose qui n'a pas toutes les caractéristiques de la Terre, un corps céleste qui ne présente pas toutes les caractéristiques de la Terre, peut démarrer la vie.
Vous avez les yeux qui brillent quand vous dites ça, André Braque. Est-ce que vous pensez justement que ces programmes, alors là pour le coup on a parlé de conquête spatiale et d'exploration spatiale, les programmes spatiaux Mars 2020 et ceux qui vont suivre sont vraiment en collaboration interplanétaire, les Européens, les Américains, les Russes qui vont lancer, bientôt les Chinois, c'est quand même, tous les terriens que nous sommes sont... pour une fois, et pour le moment encore, assez unis dans cette exploration.
Oui, Pas totalement unis, parce que les Américains, à l'origine, devaient faire une mission commune avec les Européens en 2020. En fait, ils font une mission tout seuls, parce qu'ils veulent, je pense qu'ils veulent garder l'intégralité du retour publicitaire de l'opération. C'est bon, mais en général, au niveau européen, l'Agence spatiale européenne est vraiment un exemple de solidarité et d'une belle réussite au niveau spatial d'une entente européenne. Alors aujourd'hui, des voix discordantes s'élèvent. On peut affirmer que l'Europe spatiale marche bien, même si l'Europe ne maîtrise pas encore totalement les atterrissages sur Mars, puisqu'en 2003, un petit atterrisseur, Beagle 2, devait se poser le jour de Noël 2003 à la surface de Mars, et il n'a jamais répondu. Alors en fait, c'est une histoire un peu symbolique aussi, puisque l'Agence spatiale européenne avait décidé de faire un petit atterrisseur, Beagle 2, et comme l'Agence spatiale ne pouvait pas financer, c'est un Anglais, Colin Pillinger, qui a réussi à convaincre le gouvernement anglais de financer l'atterrisseur. Et il a convaincu le loto anglais, qui a sponsorisé avec un petit post-it « Jouer loto, peut-être pour les Martiens ». Et un groupe de rock, Blur. Devait composer une petite musiquette qui était le premier signal envoyé depuis l'atterrisseur une fois posé le jour de Noël. Nous avons tendu l'oreille et nous n'avons jamais entendu la musiquette, donc Beagle 2 est considéré comme perdu, corps et bien. Peut-être que les Martiens n'aiment pas la musique de Blur, qui sait, mais c'est une plaisanterie. Et donc en 2016, l'Europe a envoyé un deuxième atterrisseur à titre de démonstrateur, Schiaparelli, qui s'est lui aussi écrasé. Donc pour l'instant, l'Europe a écrasé deux atterrisseurs à la surface de Mars. Donc on croise les doigts pour qu'en 2020, le nouvel atterrisseur européen, qui s'appelle Rosalind Franklin, va se poser avec succès à la surface de Mars. Donc nous demandons à tous ceux qui croient au croisement des doigts de croiser les doigts pour que l'opération se passe bien.
Pour 2020-2022, et on va terminer là-dessus. André Bras, qu'est-ce que vous aimeriez que l'atterrisseur, s'il arrive à bien se poser, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous ramène ?
Au moins une belle image d'une concrétion calcaire construite par des microbes martiens, à proximité du... Il sera équipé d'une foreuse qui va creuser à 2 mètres de profondeur, donc pour échapper à la surface qui est brûlée, et donc brûlée par les UV, brûlée par les oxydants, et une trace de vie fossilisée d'un microbe martien qui se serait développé il y a 3,8 milliards d'années à la surface de Mars serait pour nous le Graal absolu.
Vous viendrez nous en parler, hein, si c'est le cas et quand ce sera le cas, André Bras.
Avec plaisir.
Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous pour partager vos recherches et vos interrogations sur la vie extraterrestre en général et sur la vie martienne en particulier. Je l'ai dit, vous revenez quand vous voulez pour nous en parler. Je rappelle le titre de votre essai passionnant, fascinant, « Mars, notre passé et notre avenir », paru aux éditions Humaine Science. Autour de la question, réalisée depuis la Terre par Hugo Violas, avec Caroline Fillette en coulisses et Caroline Nachowski au micro. N'hésitez pas, chers amis, auditeurs et internautes, à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Merci pour votre écoute et pour votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.